petit bonheur.
Animalerie, mon magné, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie, mon magné, on a tout pour les gros animaux. Surtout pas d'oubli pour les petits. On adore les carnivores, les herbivores et les poissons. Animalerie, mon magné, pour l'amour des animaux.
Dans un monde rempli d'écrans, d'horaires et de selfies, vos yeux méritent un peu d'attention. À quand remonte la dernière fois que vous leur avez accordé l'attention dont ils ont besoin? Chez Iris, nous comprenons l'importance d'une vision claire. Nos optométristes offrent des examens de la vue complets pour assurer la santé de vos yeux. Ne perdez pas de temps. Visitez iris.ca pour planifier votre examen de la vue dès aujourd'hui. Iris, vision d'exception, style remarquable. Docteur Jaël Saint-Jacques, optométriste.
Entrepreneur, gestionnaire de flotte, industriel, plus besoin de jongler avec plusieurs fournisseurs. Les succursales OK Pneus André Ouellet et OK Pneus La Malbaie offrent tout sous un même toit. Pneus, réchappage, vulcanisation, fabrication de roues sur mesure et service de route. Commercial, industriel, agricole, génie civil, foresterie, un seul appel et ils s'occupent de tout. Livraison express en 24 heures, vaste inventaire. Pneus andréouellet.com ou okpneulamalbaie.com.
Avec François Tremblay, c'est Bonjour Montmagny.
Et bonjour Paul Ouellet.
Bonjour François.
Hey, comment ça va?
Ça va très bien.
J'espère que vous êtes en forme, tout va bien.
Ah oui, tout va bien.
Ah, c'est excellent. Je disais tout à l'heure, tu n'étais pas là hier parce que le clonage n'est pas tout à fait au point. Parlons-en aux Raéliens.
Il manquait des morceaux.
C'est ça, il manquait des morceaux. Paul, il y a beaucoup de choses au programme. Allons-y avec le premier ouvrage. C'est d'un certain John Grisham.
Oui, c'est le plus récent de John Grisham. Tu sais, François, comment je suis un fan de John Grisham. Parce que habituellement, il nous parle toujours, il y a toujours une cause quelconque envers ses personnages. Alors, ça s'appelle Les garçons de Biloxi et c'est publié chez J.C. Lattès. Alors, ça nous raconte quoi? On est dans les années 60, dans une ville qui s'appelle Biloxi. Biloxi, c'est situé tout juste dans l'État du Mississippi. Ouais. Puis, tu sais, c'est le Mississippi, tu sais comme moi, c'est appuyé sur la Louisiane, l'Alabama, l'Arkansas puis le Tennessee. Alors, c'est entouré par ces États-là, donc des États très fermés. Et Biloxi, qui est complètement au sud, est bordé par le golfe du Mexique. Donc, dans les années 60, c'était un endroit de villégiature. Les Américains allaient souvent à Biloxi dans les années 60 pour profiter de la plage, etc., etc., parce que le golfe du Mexique est tout juste là. Alors, on retrouve un groupe de jeunes qui sont nés dans des familles croates. Et entre autres, il y en a un qui s'appelle Keith Rudy et l'autre qui s'appelle Hugh Malko. Ce sont les deux principaux personnages de ce roman-là. Alors, on est dans un contexte où Biloxi est une ville balnéaire, oui, mais une ville où il y a énormément de corruption et énormément de débauche. Parce que tu as des bars, tu en as une pléiade, mais avec des tripots, puis en même temps des bordels. Alors, Biloxi, dans les années 60, ça va être ça. Alors, nos deux personnages, Keith Rudy et Hugh Malko, dans leur jeunesse...
Un endroit qu'Elvis fréquentait à l'occasion.
Oui, même en plusieurs occasions. Alors, nos deux personnages dans leur jeunesse sont des héros au baseball, parce que les deux sont très bons au baseball. Alors, tant qu'ils vont à l'école secondaire, ils sont considérés par les gens des alentours comme des espèces de héros, parce qu'ils sont très populaires. Mais à un moment donné, arrivé au niveau universitaire, là, il y a une séparation. Alors, il y a Keith qui... va décider de continuer à l'université et vouloir faire comme son père qui est avocat et devenir avocat. Et Hugh Malko, lui va vouloir faire comme son père qui, lui, est propriétaire de tripots et propriétaire de bar. Et je te dirais que la moitié du roman, c'est on place les personnages comme tels. Et par la suite, évidemment, là, ça dégénère parce que Hugh veut reprendre les affaires de son père au moment où son père est emprisonné. Et là, les choses dégénèrent parce que Hugh va être amené à procès. Et qui va s'occuper des procès, c'est le père de Keith. Et il va arriver toute une série d'événements parce que, comme je te dis, ça dégénère. Et là, c'est Keith qui va remplacer son père et qui va continuer ce que son père avait commencé contre la mafia, contre ce milieu mafieux. Et il va, évidemment, revoir Hugh Malko, mais dans d'autres circonstances. Moi, je te dis que c'est un des romans de John Grisham que j'ai particulièrement apprécié pour une chose, parce que c'est la moitié la première moitié du roman, il place ses personnages d'une façon très claire. Tu les suis, tu les vois, tu vois le contexte, tu vois leur éducation, et par la suite, tu vois la force et la faiblesse de chacun des deux personnages. Alors, bon roman, si vous aimez John Grisham, vous ne serez pas déçus, parce que c'est un de ses bons, c'est son plus récent, ça s'appelle Les Garçons de Biloxi, et c'est publié chez J.C. Lapesse.
Donc, voilà, ça semble fascinant.
Oui.
Je voyais, il y a Biloxi Blues, c'était un film, ça, hein?
Biloxi Blues, je pense que oui.
Avec celui qui jouait dans Ferris Bueller, Days Off, en tout cas. Des fois, je t'écoute parler, puis là, il y a des images qui viennent, c'est assez fascinant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. prochain roman, En explosion devant nos yeux.
En explosion devant nos yeux, c'est un roman québécois écrit par Dominique Lassalle. C'est publié chez XYZ. Et ça, cet auteur-là, c'est un bonhomme qui a grandi en Outaouais, dans une petite ville industrielle de Buckingham. Et ça se reflète dans ses romans. Entre autres, celui-là, ça nous raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle Dominique Lassalle. Antoine Sabourin. Et Antoine Sabourin est scénariste en vogue, et il va perdre sa femme dans des conditions tragiques. Et là, il va sombrer carrément dans l'alcool et carrément dans la détresse. Et va se réveiller à un certain moment donné, complètement gelé et sous, dans un parc. Et là, il va rencontrer une squatteuse qui n'a plus de domicile, une sans domicile fixe, qui s'appelle Cynthia. Et les deux vont décider de faire un espèce de film, une espèce de cinéma vivant qui va être alimenté par toutes sortes d'images, que ce soit des images de caméras de surveillance, des images de cellulaire, etc. Et évidemment, les marginaux qui sont autour n'aiment pas ce genre de choses-là, ça les dérange. Alors, c'est assez particulier, mais moi, ce que j'ai aimé dans ce roman-là, c'est que Dominique Lassalle nous parle d'un phénomène que l'on vit de plus en plus, que l'on voyait dans les grandes villes avant, mais que l'on ne voyait pas dans nos petites municipalités. Je pense à Montmagny, La Pocassère, ouais. Rivière-du-Loup, Nomelet. On en voyait très peu ou pas du tout, c'est-à-dire des SDF, des sans-domicile fixe. Il y en avait à Montréal beaucoup, il y en avait à Québec un peu, mais là, depuis quelques années, tu sais comme moi, ça a explosé, entre autres, à Québec, puis de plus en plus dans nos villes de périphérie, que ce soit Montmagny, Rivière-du-Loup, La Pocassière, nommons-les toutes, on en voit de plus en plus de ces gens qui sont sans domicile fixe, qui n'ont pas d'endroit où rester et qui vivent dans la misère. Alors, c'est un peu ce qui ressort dans ce livre-là, et c'est vraiment très bien écrit. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est très, très humain. Et c'est pour ça que je te disais tantôt que je comprends l'écriture de Dominique Lassalle quand on sait qu'il a grandi dans une ville industrielle où il a peut-être vu justement ce type de phénomène-là à partir du moment où, par exemple, les industries se fermaient, puis que les gens se ramassaient avec rien et n'avaient pas la possibilité scolaire de se replacer ailleurs ou la possibilité financière de déménager ailleurs. Alors, il a peut-être rencontré de ces gens-là. Alors, mettez la main là-dessus, c'est un roman très, 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 très humain. En explosion devant nos yeux, de Dominique Lassalle, publié chez XYZ.
Maintenant, on s'en va dans la catégorie essai, un ouvrage qui intéressera sûrement mon ami Webster. L'affaire Cannon, enquête sur le combat d'un médecin afro-américain contre la discrimination raciale au Château Frontenac.
Ben oui. On est dans les années à la fin de la guerre, OK? En 45. On est à Québec. Mais je vais te raconter un peu l'histoire avant, parce qu'il y a une histoire pour l'écriture de ce livre-là. C'est que l'auteur, François Charbonneau, lisait à un moment donné Le Devoir en 2020. Puis il y a un texte qui était signé par un chroniqueur de l'époque qui raconte un incident qui s'était déroulé à Québec en août 45. Alors, l'incident en question, c'est que c'était un médecin new-yorkais qui s'appelait George Dawes Cannon et sa femme Liliane Mosley Cannon. Ils séjournaient tous les deux au Château Frontenac et se sont vus interdire l'accès à la salle à manger parce qu'ils étaient noirs. Alors, évidemment, comme il était curieux, François Charbonneau, il a commencé à creuser, à gratter, à faire des recherches là-dessus, parce qu'il s'est posé la question, est-ce que immédiatement après la guerre, est-ce qu'on pratiquait ici au Québec un peu comme aux États-Unis, est-ce qu'on commençait à pratiquer une espèce de racisme envers les Noirs qui venaient nous visiter ou qui restaient dans le coin. Alors, il a fait ses recherches pour s'apercevoir que effectivement le docteur Cannon avait été refusé comme ça au Château-Frontenac, sauf que il s'est battu, il est allé en cours, puis ça avait brassé à l'époque à un tel point que les journaux de l'époque en ont parlé beaucoup. Cet homme-là s'est dit, vous allez m'accepter, c'est pas parce que je suis noir que je m'accepterai pas. Et tu sais, quand le premier ministre disait il y a quelques années qu'au Québec, il y a une espèce de racisme systémique, ben évidemment, Charbonneau, est-ce qu'il est d'accord ou pas d'accord avec ça? Vous allez le sentir en lisant le livre. Mais en 45, on n'était pas comme aux États-Unis. On n'avait pas ce racisme-là latent comme les Américains l'avaient. Sauf qu'il y avait une perception.
Comme à Biloxi.
Il y avait une perception face aux Noirs. Par contre. Ouais. Alors, c'est ce que nous raconte l'affaire Cannon. Et le docteur Dorns, avec son épouse, comme je te dis, se sont battus et ils vont aller jusqu'en cour contre cet hôtel-là. Et quand il est revenu un petit peu plus tard, quelques années plus tard à Québec, il dit, je reviens à Québec. Mais je me sens parmi de vieux amis. Alors, il y avait quelque chose qui s'était peut-être réglé à ce moment-là. Alors, mettez la main là-dessus parce que on a toujours l'impression qu'au Québec, on se dit, ben non, que ce soit blanc, que ce soit noir, on n'a pas de problème avec ça. Puis je pense que dans la majorité des cas, c'est ça aussi.
Oui, mais moi aussi d'ailleurs. Mais il y a eu des cas, ouais, puis comme celui-là, puis au début de l'histoire, comme il y a, j'ai pas le nombre exact, mais disons qu'il y a eu 3-4 esclaves à Québec.
Oui.
C'est malheureux, mais c'était pas le système. Hein.
Non, c'est pas. Puis faut dire aussi une chose, François, c'est que comme le Québec a été sous conquête anglaise.
Ben oui.
Ben au moment où ça s'est fait, il y avait encore des gens qui faisaient de l'esclavagisme dans la mer du Sud, dans les Caraïbes. Alors ces gens-là ont importé, le mot est peut-être bizarre, là, mais de ces esclaves-là ici au Québec, ici au Canada, et c'est pour ça qu'il y en avait quelques-uns, il y a eu quelques Noirs de ce type-là, mais par la suite, je veux dire, je ne pense pas, en tout cas, comme je te dis, j'ose espérer que la perception des Québécois n'était pas une perception raciste, pas parce qu'il y avait un Noir qu'on pensait tout de suite que c'était un esclave, mais la réaction de l'administration du Château Frontenac des années 45, ça avait peut-être été ça. Alors, cet homme-là s'est battu, puis, m'a dit une affaire, il a brassé pas mal de molécules. Alors, l'affaire Cannon, écrit par François Charbonneau, c'est publié aux éditions Boréal.
En terminant, Paul, t'as une petite suggestion pour nous, et surtout pour ceux qui ont lu les deux premiers tomes, c'est un vent d'orage.
Un vent d'orage, ben oui, je veux simplement vous souligner que le tome 3 vient de sortir, écrit par José Ouimette. Alors, si vous aviez aimé les deux précédents tomes, ben le troisième vient de sortir, c'est publié aux éditions Urtubis.
Cela est juste et bon, Paul, je vous laisse filer enfin en week-end.
Oui, ben, allez à Jacques-Thérèse, comme disait l'autre.
Eh ben, c'est bon, ça. Salut, Paul.
Salut, bon week-end, François. On se reparle la semaine prochaine.
Parfait, merci.
Bye.
Le jeudi 8 mai prochain à 20h, préparez-vous à vivre un spectacle musical haut en couleur avec la diva québécoise Nathalie Choquette dans la magnifique église Notre-Dame de Bon Secours à L'Île-sur-Mer. Les bénéfices de la soirée iront à la préservation de ce monument historique. Billets spectacle à 60$, billets VIP à 120$ en avant de l'église et accès au cocktail d'après-spectacle au Musée maritime du Québec en présence de Nathalie Choquette. Téléphonez au secrétariat de la Fabrique du lundi au jeudi au 418-247-5103. Je le répète, 247-5103.
J'attendrai.
Cherche un beau vélo, viens chez Thibault. Tu cherches un bon vélo électrique? Viens chez Thibaut Bessé.
Dès le 17 juin au Théâtre Beaumont-Saint-Michel, ne manquez pas la comédie Moutarde Forte. Laissez-vous charmer par Nathalie Mallette et Patrice Cocro et par l'ambiance champêtre d'un théâtre d'été où il fait bon partager l'amitié et le plaisir de se retrouver en groupe ou en famille. Le souper théâtre est la meilleure option pour une sortie qui laissera des souvenirs impérissables.